Je vais dîner ce soir chez ce cher Serge.
Je vais dîner ce soir chez ce cher Serge.
Comment dire ? Une émission proposée par le département d'études théâtrales de l'université Paul-Valéry Montpellier 3.
Produite par FM+.
Réalisée avec la collaboration de la revue Spintica.
En partenariat avec La Baignoire.
Lieu dédié aux écritures contemporaines.
Et les éditions Espace 34.
Faut que tu t'éclaircisses la voix, que tu essayes de le dire. Et voilà.
Je vais dîner ce soir chez Starcel. Il y a du progrès.
Comment dire ?
Je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Je vais me permettre de vous présenter. Alors, vous êtes historienne du théâtre et anthropologue des représentations de l'Afrique et du monde noir dans les arts du spectacle. Vous êtes aussi spécialiste des dramaturgies afro-contemporaines et vous vous intéressez aux esthétiques jazz, de la comédie musicale hollywoodienne, aux expressions scéniques issues du hip-hop. Vous enseignez à la Sorbonne Nouvelle, vous co-dirigez l'Institut de recherche en études théâtrales et vous avez créé en 2007 le laboratoire scène francophone et écriture de l'altérité, dont le programme est consacré aux dramaturgies traversées par l'histoire coloniale et interroge les esthétiques de l'altérité. Votre dernier ouvrage, Race et théâtre, un en pensée politique, paru chez Actes Sud en 2020, a remporté le prix André Malraux. Et vous êtes aujourd'hui avec nous pour une communication qui s'intitule « Jouer, rejouer, déjouer la Vénus noire, figure fantomale de l'éroticolonie ». Je vous laisse la parole, merci.
Ah, merci. Merci beaucoup. En fait, je voulais donc d'abord vous remercier d'être si nombreux, remercier Pénélope et puis le RIRA, donc les collègues que je retrouve. Enfin, c'est vraiment un moment tout à fait stimulant. Le spectacle qu'on a pu voir hier et la présence évidemment de Rebecca ce matin, c'était formidable. Alors je voudrais, effectivement, elle ne pouvait pas rester, hein, mais je voudrais dédier à Rebecca ce que je vais vous raconter aujourd'hui à propos de la Vénus hottentote, puisqu'on va revenir sur des éléments historiques. Et je voudrais vous lire, puisque vous allez bientôt pouvoir avoir la possibilité à Montpellier de voir le spectacle donc Carte Noire Nommée Désir, un petit texte emblématique qui se trouve dans Carte Noire Nommée Désir à la fin, et qui permet aussi de mettre en... Enfin, c'est un exergue, donc il permet de mettre en perspective ce que je vais vous raconter. Être unique, être exception, être le baobab au milieu des saules pleureurs, comment résister à tant d'intérêt sans pencher admirablement, mais intouchable. Resplendir sans s'offrir en bouquet, sans meurtrir ses tiges, sans faire saigner ses épines. Nous te voulons, toi, mais sans toi. Tu es belle, mais trop, pour que nous puissions accepter ton arôme. Ton parfum incommode te force nos nez instruits et fins. Tu es belle, mais trop, pour que nous puissions... te voir sans cesse. Tu es belle, mais à force, tu es laide. Nous te préférons morcelé et sans essence. Ton genre envoûte, tu es vorace, et il te faut contrôler ta croissance. Tu parles trop fort, tu embaumes trop nos airs, tu te déploies bien trop. Nous te couperons ta langue rose et la mettrons sous vide. La peau me saigne, et en dedans, je coagule de rage d'être le monstre où je pourrais être le joyau, d'être infirme quand je me sens perle, d'être invisible quand je suis soleil et que je luis. Voilà. Alors, c'était juste pour une petite mise en perspective. Donc, je vais vous parler d'éroticolonie et puis également de la Vénus hottentote, de cette fameuse Vénus qui, aujourd'hui, est très présente sous la forme, effectivement, quelque part de ce que l'on pourrait exprimer une figure emblématique de l'éroticolonie, dans la mesure où on la retrouve effectivement dans les spectacles contemporains et en particulier donc chez des artistes comme Rebecca Chaillon ou d'autres encore. Alors d'abord, je voulais vous parler de cette notion d'éroticolonie. Hein. Qu'est-ce que l'éroticolonie ? C'est en fait un territoire complètement fantasmatique issu de l'histoire coloniale qui a marqué d'une certaine manière nos imaginaires, et même s'il y a eu une décolonisation historique, la question de l'éroticolonie reste toujours, parce que c'est un territoire fait de stéréotypes, de fantasmes, qui s'est construit en même temps que la colonisation. Et il y a une dimension qu'il faut vraiment envisager de l'histoire coloniale, c'est que l'histoire coloniale, c'est une occupation. c'est une occupation territoriale, mais qui est avant tout une occupation, une domination, une appropriation des ventres et des corps. Il n'y a pas de colonisation sans occupation du corps et du corps de l'autre, pour lequel il y a à la fois désir, mais aussi répulsion, parce qu'il y a une construction paradoxale, finalement. Il faut anéantir celui que l'on veut dominer. Et en même temps, il faut s'approprier son corps. L'érotique-colonie est au cœur de ces enjeux-là. Donc c'est bien un territoire, c'est un territoire imaginaire, c'est un territoire qui continue d'exister et qui peuple, finalement, donc, en tout cas les stéréotypes et les représentations continuent de peupler encore nos imaginaires, et c'est contre cela qu'il faut évidemment commencer à travailler. Alors, ce territoire donc fantasmatique, finalement, il est toujours présent sur les scènes contemporaines à travers notamment des figures. Celle de la Vénus hottentote est tout à fait particulière parce que son histoire a contribué à enfermer justement dans son corps ce qu'elle représentait comme objet de foire. Et ça a poursuivi de manière très symbolique ce qui marque encore aujourd'hui la question de la racisation, des corps racisés. Alors, c'est vrai que c'est important de se... Donc ça, c'est un passage hein, du spectacle « Carte m'a nommé désir ». Cette figure fantomale, elle est présente dans un spectacle comme celui de Rebecca Chaillon. Elle est aussi présente dans d'autres spectacles comme « L'Afrique » de Sabine Pacora, vous voyez, de cette manière-là. Alors, en fait, je voudrais revenir un peu sur l'histoire et cette construction. La notion de Vénus hottentote, la question de la Vénus noire, c'est une vraie construction oxymorique, impossible. C'est une construction du type « la femme à barbe ». Vous connaissez la formule « la femme à barbe ». Ben, c'est la même chose, c'est-à-dire que dans la dimension, finalement, de la Vénus noire, il y a l'idée de l'impossibilité. C'est impossible de pouvoir être noir et d'être Vénus. Donc Vénus, dans l'imaginaire occidental, c'est une représentation toujours liée évidemment à la peau laiteuse, à donc une chevelure océanique, on va dire. Et même dans un tableau comme celui-ci de Rubens, la figure noire de la servante est positionnée de telle sorte que ça joue évidemment sur le miroir et ça joue sur l'oxymore, autrement dit l'impossibilité, l'envers. Les représentations au XVIIIe sont tout à fait inspirées toujours de Botticelli, et donc là c'est l'exemple type hein, de la Vénus sortant des eaux. Et il y a une image importante qui date du début du XIXe siècle, fin XVIIIe, début XIXe, c'est cette fameuse peinture de Thomas Stothard qui était une allégorie parodique de la traite. Et c'est important de voir que bon, ce tableau, il a été oublié, on l'a perdu, il existe aujourd'hui sous la forme d'une gravure, mais vous voyez évidemment déjà la dimension de cette impossibilité oxymorique, Vénus mais noire, donc Vénus mais l'envers de la féminité, en tout cas des attributs qui sont de l'ordre de d'une espèce de masculinité fantasmée, de virilité en quelque sorte, notamment liée à la question de la chevelure, par opposition évidemment à la Vénus de Botticelli, dont les cheveux permettent même de cacher le sexe, enfin tellement il y a une espèce de longueur, mais par contre on retrouve les images de Neptune, les références à l'eau. Alors, cette histoire de la Vénus hottentote, il faut se la remémorer, je vais passer vite dessus, mais c'est quand même, il faut le savoir, une entreprise de tricherie, donc c'est une fausse attraction hein, qui va être en fait présentée à Londres par donc des Sud-Africains qui avaient le désir de faire fortune. Au XVIIIe, il y a une passion évidemment pour les corps d'altérité qui viennent d'ailleurs, et on fantasmait énormément sur les corps des hottentots qui étaient censés avoir des tabliers qui protégeaient donc des caches sexes, hein, qui protégeaient leurs attributs. En particulier, donc ça, ce sont des dessins qui sont des dessins faits non pas par les botanistes ou les biologistes qui avaient fait les voyages, mais on dessinait d'après les récits de voyage. Et donc, du coup, on se représentait les hottentots comme ayant des attributs physiques très marqués et notamment une appétence particulière pour la sexualité, avec notamment des parties génitales démesurées sur les femmes. Donc on se représentait une vulve absolument, donc là elle fait au moins 30 cm et évidemment un derrière donc particulièrement volumineux avec toutes sortes d'éléments qui renvoient à la bestialité. Donc vous voyez les fameux peaux de bête, les manteaux, donc ces éléments-là vont marquer les imaginations et vont faire l'objet bien de la construction d'un spectacle qui va donner lieu donc à la Vénus Hottentote présentée à Piccadilly. Alors il y aura énormément de dessins, de représentations, de caricatures avec toujours les fesses évidemment démultipliées dans leurs dimensions, évidemment des traces aussi de masculinité puisque quelque part c'est du désir, mais en même temps, c'est censé ne pas faire concurrence aux femmes blanches. Il y a tout un jeu de cet ordre-là. Donc vous voyez la pique, le manteau, donc la peau de bête, et puis bien sûr la pipe donc, qui marque les enjeux de virilité. Mais en même temps, on joue sur le désir avec Cupidon. Alors, c'est bien, en fait, en 1810, quand le spectacle est présenté, une attraction qui est censée être anthropologique. Voilà ce que l'on trouve dans le journal de Morning Post. La Vénus Hottentote vient juste d'arriver. Elle peut être vue entre 1h et 5h de l'après-midi au numéro 225 de Piccadilly. Elle vient des rives de la rivière Cantus, aux frontières de la Caffrerie, à l'intérieur de l'Afrique du Sud. C'est l'un des plus parfaits spécimens de ce peuple. Grâce à cet extraordinaire phénomène de la nature, le public aura l'occasion de juger à quel point elle dépasse toutes les descriptions des historiens concernant cette tribu de l'espèce humaine. Elle est vêtue des habits de son pays et des ornements habituellement portés par son peuple. Elle a été vue par les principaux gens de lettres de cette ville. Tous ont été fortement surpris par la vue d'un merveilleux spécimen de la race humaine. Elle a été amenée dans ce pays par Hendrik César et leur séjour sera bref à partir de lundi prochain, 24 septembre, au tarif de 2 shillings par personne. Donc, faites vite, vous risquez de la rater. Hein, voilà ce que dit le spectacle. Et évidemment, ça va être donc absolument une construction. Alors, les Français vont s'empresser de s'en moquer pour qu'ensuite, évidemment, elle viendra en France hein, aussi après donc le fameux procès. Donc voilà une autre image donc de Sarji Bartman qui va être complètement enfermée dans cette silhouette parce que finalement les anti-esclavagistes de l'époque en 1810 vont dénoncer le spectacle comme étant déshumanisant, aliénant et donc humiliant pour la personne qu'était donc la jeune femme, mais on l'a complètement enfermée dans l'idée que c'était de toute façon une sauvage réduite en esclavage et qui finalement devait rentrer dans son pays et qu'il fallait absolument la sauver. Mais finalement, on l'a enfermée dans l'idée que elle était ce qu'elle montrait sur la scène et non pas l'idée qu'elle jouait un spectacle ou qu'elle était comédienne pour mettre en scène justement cet imaginaire de l'altérité et de l'ensauvagement. Et du coup, elle a été finalement, elle n'a plus pu faire le spectacle à Londres, donc elle a été négociée, vendue à un montreur d'animaux. Elle se retrouve à Paris. Bon, je passe vite hein, sur l'histoire, mais elle va être récupérée en fait par le monde scientifique. Dans un premier temps, il était question quand même de l'utiliser et de vendre ses services pour qu'on puisse donc la dessiner. Mais finalement, elle va mourir très vite et on va donc la récupérer sous la forme véritablement d'un objet. Donc on va découper, on va la mouler, on va découper donc ses parties génitales. Enfin, ça va être vraiment une annihilation de ce qu'elle représentait comme être humain, puisqu'il n'y a pas de sépulture. Enfin, c'est ça la dimension la plus terrible, évidemment. Après l'événement, même encore en 1830, l'histoire de la Vénus Hottentote sera très présente. Donc on a encore des caricatures qui montrent finalement cette situation donc, de la jeune femme comme finalement une bête de foire qui mettait en pamoison donc, les jeunes femmes de l'Empire, hein, d'où les costumes de mes, presque de mes veilleuses. Là. Alors il y a un film, le fameux film d'Abdelatif Kechiche en 2010, qui raconte très bien, en fait, dans un premier temps, bon, le film va trop loin et il y a beaucoup d'aberrations et de choses qui ne sont pas du tout justes. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'il remet bien en scène le spectacle tel qu'il était présenté, avec une cage, avec un fouet, elle était attachée, elle sortait de la cage, elle faisait un petit peu de musique, elle avait un costume donc, qui renvoyait effectivement au costume des dessinateurs donc des récits de voyage que je vous ai montré avant, et puis bien sûr, elle n'était pas nue, donc c'est important de quand même s'en rendre compte, donc elle portait une espèce de collant qui renvoyait finalement, donc bien sûr au moulage de son corps, hein, on pouvait voir ses formes, mais elle n'était pas nue. Et elle était maquillée et elle portait aussi une peau de girafe. Il y avait une peau de girafe dans le dispositif. Avec ce qu'on appelle une cabane bambou. C'est ça la cabane bambou, une cabane faite de bois. Bon, après, le film part dans quelque chose de pas tout à fait réaliste. Donc là, c'est une vision un peu fantaisiste des danses qu'elle aurait pu faire dans les salons de l'Empire. En revanche, la dimension très forte du film, c'est le fameux procès dans lequel elle tente d'expliquer qu'elle est comédienne, qu'elle joue, qu'elle a un contrat. Et en fait, finalement, la dimension insupportable, c'est le fait de ne pas vouloir reconnaître qu'elle jouait la comédie. C'est pourquoi elle va symboliser de manière très très forte pour les artistes aujourd'hui encore cette façon d'enfermer les racisés dans un corps et qu'on ne voit rien d'autre que leur corps noir et leur corps frit avec des cheveux crépus et peut-être donc des formes qui ne sont pas celles qu'on croit relever de la norme.
Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le point levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger. Mais toujours le point levé, lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis l'as qui bat le roi. Nos peines, nos différences, toutes ces injures incessantes. Moi je lèverai le poing, encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça ne me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Je ne suis pas comme toutes ces filles, ont des visages, ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs. Fille d'un quartier populaire, j'y ai appris à être fière. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, avec la force et le sourire. Le poing levé vers l'avenir, lever la tête, lever le torse. Sans cesse redoubler d'efforts, la vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis l'as qui bat le roi. Viser la lune, ça ne me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Ah.
cet érotisme qui se dégage finalement de l'histoire de la Vénus hottentote ne va pas cesser d'alimenter finalement le monde du spectacle. On le retrouve au XIXe siècle de manière très très prégnante dans les grands théâtres qui font du grand spectacle au milieu du XIXe siècle. C'est notamment le théâtre du Châtelet par exemple, où on va adapter même carrément le Tour du Monde en 80 jours, en rajoutant des scènes qui n'ont rien à voir avec le roman. Donc le roman de Jules Verne, il n'y a rien qui se passe en Afrique, dans le roman de Jules Verne, puisque le ballon survole l'Afrique. Par contre, ils décrivent ce qu'ils voient, et notamment, c'est assez raciste, donc je vous conseille d'aller le lire, vous vous amuserez, puisque les personnages parlent des singes, et c'est quand même assez terrible. Mais, par contre, dans le spectacle, eh bien, on ramène, vous le voyez, des danseuses qui sont torse nues. Et vous voyez tout de suite le galbe, du dos et des fesses, et puis évidemment les seins qui sont en obus à l'avant. Dès cette période-là. Alors vous allez me dire, ah bon, on montrait ça dans les scènes sur le théâtre à l'époque? Mais pas du tout, voyons, c'est une affiche. Ce n'est qu'une affiche. Donc c'est en ça qu'on construit des imaginaires, c'est-à-dire qu'on stimule les spectateurs pour venir voir au Châtelet un spectacle où il y aurait peut-être ce genre de choses, mais en réalité, la seule chose que l'on avait amenée au théâtre du Châtelet et qui avait fait sensation, c'est un éléphant, un vrai éléphant. Mais il n'y avait pas d'artistes qui venaient d'ailleurs, on n'était pas du tout encore capable d'associer finalement à la scène théâtrale les présences de corps différents. Ça, c'était pour le jardin d'acclimatation et des espaces où on faisait des spectacles anthropologiques. Alors, il va y avoir un événement autour de notre fameuse Vénus noire, c'est le livre d'Adolphe Bellot. Adolphe Bellot était un spécialiste de romans érotiques. Et il écrit donc La Vénus noire, un voyage en Afrique centrale, avec des illustrations, donc comme vous le voyez, qui sont très suggestives, puisque ça met en scène la nudité. La femme est toujours excessivement sauvage et violente, donc de toute façon, cette Vénus noire, donc, on la voit de dos pour bien voir son postérieur. On peut le retrouver sur le net. Il y a beaucoup d'images qui illustrent donc le corps de la Vénus, qui en plus, évidemment, est criminelle. Enfin bon, elle va faire des meurtres autour d'elle. Donc voilà comme ça se présente dans le roman, et jusqu'à sa disparition, bon, elle meurt dans les marécages autour de bambous, et ça permet toujours de montrer évidemment sa nudité. Ce roman va être adapté à la scène au théâtre du Châtelet, et va faire l'objet de beaucoup de comptes rendus dans les revues de l'époque, notamment dans le Théâtre Illustré, où c'est là qu'on peut se faire une idée, en tout cas de la façon dont on communiquait sur le spectacle. Et vous voyez le personnage de la Vénus. Alors, il y a toujours des signes intéressants, c'est notamment la jupette en peau de panthère, le côté plastron donc militaire, et en fait un casque avec, alors du coup c'est une espèce de casque qui fait penser presque il y a un côté, j'ai oublié comment ça s'appelle, c'est pas la cavalerie, en France on a un corps d'armée avec qui sont sur des chevaux et ils ont l'infanterie, voilà. Enfin, ça doit être ça. En tout cas, avec une queue de cheval. Vous voyez le casque avec une queue de cheval. Donc, on voit bien ce casque avec une queue de cheval. Bon, là, j'essaie de l'agrandir pour que vous voyez. Donc, mais en même temps, donc, bien sûr, les bracelets. Enfin, il y a un côté Diane Chasseresse, mais aucune réalité. On ne sait pas quel était véritablement le costume de la comédienne, qui n'était pas noire, et évidemment, qui portait sans doute pas une jupette. En 1878-79, difficile de porter une jupette sur un théâtre comme ça. Je ne pense pas que ce soit possible. Et au niveau des descriptions, quand on essaie de lire la critique, ce qui importe, enfin, finalement, elle était habillée, quoi. Il n'y avait absolument pas de... Il n'y avait pas d'effet de nudité, et ça n'était pas une artiste africaine qui jouait le rôle de la Vénus noire. Par contre, on s'intéresse beaucoup à l'effet toujours un peu oxymorique, c'est-à-dire que les critiques s'amusent à commenter la façon dont la Vénus noire et les animaux autour qui étaient convoqués. Donc là, il y avait d'autres animaux, pas d'éléphants, mais des dromadaires, des girafes, des mules qui étaient maquillées. Et comment tout ce petit monde, la Vénus noire comprise, effarouchait les ballerines. Donc c'est ce que représente ce petit cartouche, comment les ballerines sont affolées par la présence du dromadaire. Alors, ça traversait également le monde du cabaret avec des spectacles comme celui-là. Même chose, c'est-à-dire qu'on a toujours des affiches, mais la réalité de ces spectacles ne mettait pas en scène forcément donc une artiste africaine. Ça relevait tout simplement de la musique, de la percussion et de chansons qui traitaient, par contre, de la Vénus hottentote. Mais on utilisait son image pour capter le désir et l'intérêt des spectateurs. Même au cirque, donc la façon dont Miss Lala, qui va être donc une artiste acrobate, qui était la femme canon, va être présentée dans la presse toujours comme la Vénus noire. Alors pourtant, ça c'est une photo d'elle, c'est une petite artiste métisse qui n'a pas véritablement un corps donc qui pourrait être celui de la Vénus hottentote, mais la façon dont on en parle sera toujours venez voir la Vénus noire au cirque, et c'est elle que l'on retrouve dans les peintures de Degas, puisqu'il a beaucoup il a essayé de travailler, on parlait de l'énergie ce matin, il a beaucoup travaillé sur la vibration, l'énergie. Il y a beaucoup de tableaux avec des dégradés chromatiques qui tentent de rendre, on ne voit pas vraiment la figure ni la réalité humaine du personnage de Miss Lala, mais par contre c'est son geste artistique qui avait impressionné effectivement au cirque Fernando Degas. Alors, ces images vont continuer de se diffuser à la fin du XIXe siècle avec l'arrivée, effectivement, de la réclame, de la publicité, des affiches. Enfin, on va énormément exploiter le corps de la Vénus dans toutes sortes de postures. Donc, c'est, par exemple, les négresses, bien sûr, toujours fantasmées dans le milieu publicitaire. Donc, vous voyez, là, c'est pour vendre du rhum, comme si en Martinique ou en Guadeloupe, et donc les femmes noires étaient toutes le buste dénudé et offrait du rhum dans ces conditions. Vous voyez les danses, enfin, tout ça c'est de l'absolu fantasme. Même chose donc pour d'autres objets. Donc j'ai pris deux exemples, mais là donc c'est un spectacle des Dahoméennes au Casino de Paris. Donc vous voyez la Dahoméenne toujours avec des attributs viriloïdes, dirait Barthes, donc le sabre, le fusil, mais Salomé, hein, une tête coupée à la main. Il y a toujours cette terreur, cette hantise. Elles sont terrifiantes. Et dans la Dahoméenne, bon, c'est intéressant aussi que ça soit une Dahoméenne qui puisse faire la publicité du vélo à l'époque, alors même que les femmes ne sont pas autorisées à faire du vélo. Alors là, il y a tout un pan absolument extraordinaire sur la façon dont finalement ça va libérer les femmes. Mais à contrario de ce que souhaitait effectivement l'ordre public, puisque ça n'était pas autorisé, et dans le code napoléonien, hein, vous savez que c'est... Donc c'est alors aujourd'hui, ça a été aboli, cette affaire-là, mais pendant des années encore, enfin, c'était inscrit dans le code napoléonien, que les femmes... alors ça donnait toutes sortes de maladies, enfin, il y a toute une rhétorique sur la question. Par contre, ça ne gêne pas, évidemment, de faire de la publicité avec une jeune femme noire, donc censée être Dahoméenne, c'est le titre, c'est le nom qu'on donne à ce vélo, la Dahoméenne, poitrine au vent, s'envole sur son vélo. Dans les affiches qui vont attirer dans les villages, ce qu'on appelait les villages nègres, ou les installations au jardin d'acclimatation, donc là c'est pour présenter des Ashanti, vous avez l'affiche de l'exposition anthropologique de 1895. Donc alors évidemment, il y a l'homme qui a tous les attributs aussi de quelque chose d'un peu diabolique, sauvage, et puis la femme abandonnée, mais toujours les seins nus bien sûr, lascive, offerte, avec toutes sortes de symboles, même les symboles entre la pique et puis la calebasse, tout ça c'est une construction de l'imaginaire qui va coller finalement à la représentation de l'Afrique. Voilà la réalité de ce que représentait la présence des Ashanti en 1893 au jardin d'acclimatation. Bon, la photo est intéressante parce qu'on a le public qui est finalement de l'autre côté des barrières et le photographe a pris de l'intérieur, donc de l'enclos. Mais vous voyez que c'est bien loin de la représentation sexualisée et évidemment pleine donc de concupiscence qui est marquée dans l'affiche. Cette vision-là, donc de la femme noire, toujours un peu masculine, les seins en obus et bien sûr dénudée, ça va marquer donc toutes les représentations, mais ça va aussi ensuite se décliner dans toutes sortes de photographies à partir du moment où donc les clichés arrivent à la fin du 19e, début 20e. Toute cette série de photographies qui vont circuler, donc vont toujours mettre en scène évidemment des femmes noires dénudées et mises en scène. Hein. Donc il y a tout un trafic finalement érotique. Et sous le manteau, qui passe évidemment aussi par la pédophilie, bien sûr, puisque ce sont souvent des jeunes filles prépubères, bon, vous le voyez pour la troisième photo, entre autres, et puis on les met en scène de cette manière. Et ça a toujours à voir avec cette représentation de la femme noire qui est donc censée avoir une sexualité débridée, une appétence incroyable, ce qui était représenté concrètement par le fameux tablier de l'Hottentote. En 1902, voilà, bon, c'est un dessin amusant parce que c'est un dessin d'un caricaturiste dans la Revue Blanche, 1902. En 1902, Joséphine Baker n'est pas née, hein, mais vous avez déjà tous les attributs, toujours la tête donc, qui semble rasée, les seins en avant, la fesse cambrée, et donc cette représentation qui est donc carrément finalement marquée comme une espèce d'estampille de la femme noire. Dans les années folles, donc ce qui est amusant, c'est qu'on va se mettre à finalement vouloir jouer cela, c'est-à-dire que ça va passer véritablement à la scène. Autant au milieu du 19e, on ne parvenait pas à le faire jouer, là on va tenter véritablement de jouer donc cet érotisme de la femme noire à travers, alors, le musical, bon, évidemment aussi, mais dans un premier temps, ce qui est quand même important, c'est les avant-gardes. On ne le sait pas toujours, mais au milieu des avant-gardes, donc nos fameux artistes qui sont importants pour l'histoire du théâtre, comme Gaston Bati, par exemple. Gaston Bati montait les textes d'Henri-René Lenormand, et au nom de ce qu'il appelait une authenticité certaine, il ne voulait pas que les artistes noirs qui seraient présents viennent donc de Ménilmontant, enfin il y a toute une rhétorique autour de ça, et il va être un des premiers effectivement à faire jouer des acteurs et des actrices noires réelles, et notamment Aïcha Goblet. Alors Aïcha Goblet, on est dans les années 20, donc elle va passer pour, elle était danseuse, elle dansait souvent torse nu, donc vous la voyez ici avec donc un raffia et une femme blanche qui est maquillée en face. C'est donc c'est la négresse du Sacré-Cœur. André Salmon a fait un roman pour raconter l'histoire d'Aïcha Goblet. Et Aïcha, on va la retrouver donc dans les pièces de Gaston Bati, avec une présence justement toujours de captives, de sauvages. Alors, vous allez me dire, mais là, il s'agit d'une fête, elle est nue, et une fête, ça, c'est une fête à Montparnasse. Elle n'est déjà pas toute jeune, en fait, parce que quand elle était là, c'était déjà au début du XXe siècle, en 1924, hein, c'est au moment où se jouent ces pièces avec Gaston Bati, je pense qu'elle est plus près de la trentaine bien, bien tassée, donc des 35-38 ans. C'est pas une jeune femme comme l'était donc Joséphine Baker par la suite. Voilà donc Aïcha Goblet, ça c'est une photo d'elle, on peut voir, donc elle était martiniquaise, enfin d'origine martiniquaise, née en France, et d'un père qui était circassien. Et elle-même, donc elle était dans le Nord, et elle vient à Paris, elle va être dans des circuits artistiques importants. Du coup, elle va être l'égérie de nombreux plasticiens, de nombreux peintres. On la voit beaucoup, mais on ne mettait pas son nom, forcément. Et voilà pour Bati. Bon, puisque je ne peux pas vous parler de... Je vais essayer de parler aussi d'art plastique, mais c'est quand même le théâtre qui nous importe beaucoup aussi. Alors, c'est difficile d'avoir des traces de ça, mais celle-ci, elle est quand même importante. Pour l'instant, c'est la seule que... C'est dans la presse, hein, et c'est... elle joue la belle captive dans À l'ombre du mal. Dans les récits, les critiques parlent toujours d'Aïcha Goblet, absolument impressionnante de séduction et de... Donc, de suggestions érotiques, notamment avec un seul sein dénudé. Alors au départ, je me disais, mais pourquoi il parle d'un sein et pourquoi un seul sein avec son seul sein, enfin un sein au singulier. Et en fait, voilà, dans la photo, là, c'est une photo de scène où vous la voyez avec les bananes. Donc c'est bien avant. Donc on comprend pourquoi les bananes vont revenir avec Joséphine Baker. Et puis elle joue la captive et elle a effectivement un seul sein dénudé. C'est parce qu'en fait, déjà au Music Hall, on avait du mal à dépoitrailler les femmes, et pour des raisons, donc pour pas aller trop vite et trop loin, on n'enlevait qu'un morceau de tissu et on montrait le sein, mais qu'un seul. Bon, vous voyez l'hypocrisie où ça va se nicher, quoi. Alors, donc ça donnera ensuite, elle est reprise, donc à la Joséphine Baker, donc va arriver à la Folie du Jour, donc dans un spectacle. Après la Revue Nègre, qui se joue donc aux Folies Bergères et qui met en scène une aventure en Afrique. Bon, Joséphine Baker qui n'est pas africaine, qui est finalement donc américaine avec une ascendance amérindienne vraisemblablement et bien sûr africaine et espagnole également. Enfin, donc qui est très très métissée, va jouer l'africaine. Elle s'était pliée à l'idée de la nudité avec l'histoire de la folie, en fait, de la Revue Nègre. On sait toute une histoire aussi comment on l'a amenée à se dénuder, puisque elle était danseuse et surtout choriste et elle ne dansait pas nue à Harlem. Hein, donc, bien sûr que non. Donc, ça a été un enjeu important porté par, en fait, Colin qui a été son amant aussi, ce qui fait que. Ensuite, elle va avoir cette image-là de la femme à la ceinture de banane, le buste dépoitraillé, alors qu'elle va très peu, elle va très très peu, elle va jouer ça, mais ensuite, il y aura des photos, mais ensuite, on ne retrouve pas Joséphine Baker dans une série de spectacles où elle est dans cette situation-là. Mais vous voyez bien qu'il y a toujours cette espèce de ce que j'appelle la figure fantomale de la Vénus qui n'est pas loin, puisqu'il s'agit toujours d'appuyer sur... Donc le derrière rebondit, le renforcement évidemment avec la ceinture de banane, qui est en même temps donc l'exotisme, la connotation de l'éloignement, mais aussi il y a quand même un élément qui renvoie à la marque masculine aussi. Donc on est toujours dans cet entre-deux et c'est vraiment assez marqué donc bien sûr dans les photos. En même temps, c'est bien de se souvenir de Joséphine Baker faisant le pampan tutu, parce que ça dit quelque chose en fait sur ce que je voudrais vous expliquer pour la suite. Alors, ça va aussi toujours avec l'animalisation, la captive, autant de paramètres donc, qui construisent justement cette figure exotique héritée de la Vénus noire et qu'on va toujours retrouver dans la presse. Ce mot de Vénus noire va toujours revenir quand il s'agit de parler d'une femme noire qui est censée être attirante et désirable.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily, elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier rue Secrétan lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé les cajots, Lily. Elle s'est tapé les sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aimait un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit, nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily. Ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit, viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un poing rageur, Lily, au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdit aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un type bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
Donc, ces survivances en fait, de l'érotique coloniale, eh bien, on va les retrouver dans l'imaginaire commun. Elles vont en quelque sorte se rejouer dans des figures très très contemporaines. Alors il faut, je vous en ai donné quelques-unes, mais on est dans les années 80, on monte l'Afrique au Pinac, c'est la grande mode, c'est touche pas à mon pote, etc. Et en même temps, vous avez dans la publicité, dans le monde des arts, donc notamment Jean-Paul Goude, qui n'est pas fier hein, de ce moment, mais qui est à ce moment-là le compagnon, effectivement, de Grace Jones, va faire toute une installation plastique et théâtralisée où il met Grace Jones non seulement nue, mais en panthère. Donc là, elle est nue, c'est déjà beaucoup. Dans une cage, c'est beaucoup. Avec de la viande et puis ses dents, c'est beaucoup. Mais voilà ce que ça donne par la suite, c'est-à-dire que comment le dispositif théâtral fait que on la fait rugir, on lui met une queue de panthère derrière, enfin, et puis les os décharnés. Donc vous voyez, c'est Jean-Paul Goude. Bon, aujourd'hui, il le ferait plus. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler à se décoloniser. Hein, il faut travailler et aider tout le monde à décoloniser les imaginaires. Alors voilà d'autres publicités de l'époque qui sont moins connues. Et bon, ça c'est la vieillerie qui fait que je peux en parler, puisque moi-même j'étais absolument choquée à l'époque. Donc je vous parle de la. Vous le savez peut-être pas, mais effectivement, au moment où le métro, la RATP lance son ticket choc, son ticket jaune qui a les couleurs de la banane, toute la campagne publicitaire va se faire sur c'est pas Joséphine, enfin c'est quand même Joséphine hein. Donc en tout cas on reconnaît bien toujours le derrière, les seins, pas de cheveux, et évidemment les bananes qui sont là pour convoquer l'exotisme. Mais même dans la publicité ici hein, de Look, donc qui était une marque de soutien-gorge pour valoriser l'ensemble donc soutif culotte blanc, vous voyez, les toujours pas de cheveux, bon, les bracelets, et puis le petit raffia tout petit autour de la taille, et puis en bas à droite, le tam-tam. Voilà. Alors, comment voulez-vous que les gens de l'époque ne voient pas, quand ils voient passer une femme noire dans la rue, bah, de toute façon, toute femme noire est forcément liée à des tam-tam, à du raffia, à forcément une attractivité pour le sexe démesurée. Voilà. Ça fait partie de ce qui va fantasmer finalement. Alors on retrouve encore cela, bon là c'est plus proche de nous, hein, vous voyez les Kardashians et toute cette histoire aussi de prothèses. Alors on en parlera peut-être à propos du Brésil, mais bon, les prothèses de fesses et toute cette fantasmagorie là, à avoir encore une fois avec cette représentation de l'érotisme exotique qui marque l'érotique-colonie, et toujours dans un rapport genré d'opposition masculin-féminin et de désir. Bon, là, je n'ai pas besoin d'appuyer pour expliquer le phénomène, n'est-ce pas? Alors, donc, quels sont les gestes, finalement, décoloniaux en post-colonie? Comment Donc, que faire de ces gestes décoloniaux? Je vous disais en fait tout à l'heure qu'il y a différentes démarches, et la première démarche, ça va être effectivement d'exacerber les clichés pour mieux les disqualifier. Et Joséphine Baker fait partie de ce premier geste-là. C'est pour ça que quand elle fait le pan-pan-tutu, il y a quelque chose finalement d'un geste qui provoque jusqu'à l'exacerbation. Du coup, comme on l'enfermait dans cette image exotique, elle va elle-même surenchérir. Et donc en s'entourant, alors là, bon, ça a fait beaucoup parler à l'époque hein, de son fameux jaguar, mais elle avait des perroquets, d'autres animaux, des singes, etc. Et notamment pour provoquer d'autant plus, dans les hôtels où on l'accueillait, eh ben, il fallait qu'on l'accueille avec sa ménagerie. Et c'était de la provocation, évidemment. Hein. Donc ça participe vraiment déjà d'une volonté de faire prendre conscience à l'autre de son imbécilité, à force d'exagérer justement dans le sens contraire. Il y a aussi bien sûr l'importance de raconter l'histoire autrement, d'un autre bord, d'un autre point de vue. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver. Alors, ça démarre, bon, emblématiquement, en tout cas, Suzanne Laurie Parks, une autrice américaine, va s'emparer de l'histoire de la Vénus et va être une des premières à écrire une pièce contemporaine qui raconte l'histoire autrement, qui raconte l'histoire de la Vénus autant-tête, du point de vue, finalement, de la Vénus elle-même. Alors, avec une fantaisie, hein, c'est une pièce de théâtre, mais la pièce, donc, c'est en 97 qu'elle écrit cette pièce de théâtre, qui sera montrée et reprise plusieurs fois, car il s'agit surtout aussi de raconter la façon dont finalement cette vision du corps démesuré va être aussi récupérée par le monde du vêtement, par les femmes elles-mêmes, les femmes blanches, et par toute cette déstabilisation finalement de la représentation du corps qui marque effectivement le 19e siècle. Donc voilà un autre passage de la Vénus autantoque, monté par Christelle Alves-Mera en France, et qui a été diffusé au Théâtre de l'Athénée, et puis ensuite aussi à la Chapelle du Verbe Incarné, où elle joue en fait sur les fesses démesurées sous forme donc d'un cul en or. Retourner le regard, c'est une chose importante. Donc, ce fameux cul en or vient d'une certaine manière de René Valérie Cox, qui est une Jamaïcaine plasticienne, qui en 2000 crée justement une série de photos qui marquent donc les attributs de la Vénus en retournant le regard, en regardant celui qui regarde. Ça, c'est amusant parce que c'est un spectacle vraiment d'une danseuse et performeuse sud-africaine qui, en fait, va raconter ce qui se passe sous les jupes, raconter du point de vue de dessous les jupes des femmes blanches. Et du coup, tout est renversé. Donc, il y a un petit extrait sur le net. Si vous tapez donc le nom Delisiwe Xaba, vous allez le trouver, hein, dans Umbrella. Il y a un petit teaser qui est vraiment top, où on voit ce renversement. Elle commence les jambes en haut, et tout ce renversement est très, très intéressant, puisque ça traite, en fait, de cette façon dont on a, finalement, à la suite de l'histoire de la Vénus autantote, eh bien, inventé les faux culs. Hein, les faux culs dans la... Et comment la mode a été complètement inspirée par ce phénomène. La dérision, c'est aussi un autre enjeu. Alors, c'est par exemple Tracé Rose qui fait un spectacle Bartman, dans lequel elle se met elle-même en scène dans des vidéos, donc dans la pampa en quelque sorte. Et puis il y a aussi des installations où là, alors c'est assez drôle parce qu'elle s'assoit comme si elle s'assoyait sur un cabinet, sur une télévision qui représente une odalisque blanche. Elle est entièrement rasée et elle retisse tous ses cheveux. Elle tisse tous ses cheveux. Et ça, c'est une chose aussi importante dans la pratique artistique africaine, contemporaine, qu'on retrouve effectivement chez Rebecca Chaillon également. Le principe de la grimace, avec Latif Alabissi, donc avec son spectacle Self-Portrait Camouflage, où elle installe vraiment un dispositif muséographique, et elle travaille donc vraiment sur la grimace du corps et la grimace du visage. Le principe de la défiguration également, bon, ça serait par exemple l'exemple de Wanjiru Kamuyu, qui elle a travaillé sur là aussi un spectacle qui s'appelle Portrait in Red, et où elle se défigure en quelque sorte pour tenter de retrouver un autre corps. Et c'est ce dont je vais vous parler. Donc le principe de l'exorcisation aussi, avec Bintou Dembélé qui passe par le crump et la danse pour travailler sur le fait d'exorciser, parce que décoloniser, c'est aussi décoloniser les racisés eux-mêmes, qui ont intériorisé évidemment ces représentations exotiques. Ou une plasticienne qui travaille aussi sur l'exorcisation, Kara Walker, qui est elle américaine. Le principe aussi de découdre et recoudre, donc de reformuler. Tout à l'heure, elle l'a dit en fait, Rebecca aussi, hein, découdre. Elle a dit découdre, il faut découdre. Découdre et recoudre. Donc c'est Alice Diop qui a été, à qui on a confié une carte blanche pour le festival d'automne et qui a travaillé sur Le voyage de la Vénus noire de Robin Cost-Lewis qui met, en fait c'était une installation plastique et sous une mise en voix du texte qui est envisagée comme une relecture radicale de l'histoire de l'art racontée justement autrement et en faisant un autre voyage que celui auquel on est habitué. Et on pourrait prendre l'exemple plastiquement parlant de Rosanna Polino aussi, qui a travaillé sur les photos anthropologiques en l'été. Alors on ne voit pas ici, mais c'est normalement du fil rouge. Elle utilise du fil rouge et du coup elle brode des photos qu'elle redécoupe, qu'elle recoue entre elles autrement, et toujours en travaillant aussi sur le jeu des racines, donc tout ça étant brodé sur des photos. D'autres artistes travaillent sur la sépulture. Je vous disais que la Vénus Hottentote n'a pas été enterrée, elle a été emballée, coupée en morceaux, mise dans des bocaux. Et ici, Chantal Loyal, alors On t'appelle Vénus, qu'elle a d'ailleurs joué, donc là c'est à l'Atrium en Martinique, mais elle a joué aussi dans beaucoup beaucoup d'endroits, elle construit une espèce de rituel qui est une véritable inhumation, exhumation de l'histoire et inhumation, donc un travail sur l'hommage à rendre à la Vénus pour l'enterrer par le geste artistique et théâtral. Décaper, démonter et soigner, c'est vraiment le geste de Cartman nommé Désir, donc le travail qu'accomplit aussi Rebecca. Cette dimension-là est importante chez elle. Rebecca dit « Performer, mettre mon corps en sacrifice, me laisser traverser par une audience pour qu'elle se raconte ses histoires à travers mes clichés, ceux qui ont construit ma vie, que j'ai cherché à y coller ou à m'en éloigner, m'exposer frontalement, fragilement et raconter mon intime à un public majoritairement blanc, un danger ou une prise de pouvoir, j'opte pour la deuxième proposition de toute évidence. Je me réapproprie la violence, je la fais mienne, j'exerce un pouvoir sur elle en la filtrant et en la sublimant. » Alors, il s'agit donc de faire advenir un autre corps. Ce qui était évoqué tout à l'heure par l'idée de la saveur, retrouver la saveur de soi. Mais c'est finalement, moi je l'identifie comme quelque chose qui est de l'ordre du fait de faire advenir un corps qui était enfoui, qui était donc colonisé, donc assigné, le corps de l'esclave qui appartient au maître, qui n'appartient plus à l'esclave et que l'esclave doit reconquérir en quelque sorte. Du coup, par ce geste décolonial, le corps devient un corps marron, hein, au sens du marronnage, et il permet finalement d'aller atteindre un corps autre, un corps vibratoire, bon, insaisissable, qui lui ne pourra pas être enfermé. C'est pour ça aussi que la question de l'énergie, de la vibration, de la musique est importante. Il s'agit donc de sortir ce corps des définitions imposées et sortir évidemment ce corps de toutes ces images préconçues. L'exemple de la Vénus Hottentote est vraiment finalement une concentration de ça, tout simplement. Alors ça passe par des artistes, donc ça c'est Ludmila Dabo dans un spectacle de Kofi Kwaoulé et Alexandre Zeff, hein, c'est jazz, mais même l'image de la transcendance, de l'élévation, des ailes, elle le dit aussi, hein, Rebecca, se retrouver ses ailes en quelque sorte. Donc faire advenir cet autre corps, c'est une forme de transcendance, de dépassement et de réappropriation de soi. C'est intéressant d'ailleurs la question de la saveur, ou de l'odeur, du parfum, c'est quelque chose qui s'élève. Et donc je voulais finir sur Alexis Peskin, parce que Alexis Peskin, donc c'est un plasticien qui lui aussi travaille sur cette dimension-là, et une exposition qui commence à être ancienne aujourd'hui, mais qui s'appelait donc en fait tellement au-dessus de la France, où vous voyez cette représentation-là, cette fois, d'une femme noire, ben finalement, les attributs de sexualisation, ils ont été transcender, sublimer, renverser, pour ne plus être donc dans la dans l'enfermement donc de la du corps assigné que représentait emblématiquement donc la Vénus au Temple. Voilà, merci beaucoup.
Ma France à moi, elle parle fort. Elle vit à bout de rêve, elle vit en groupe, parle de bled et déteste les règles. Elle sèche les cours le plus souvent pour ne rien foutre. Elle joue au foot sous le soleil, souvent du coca dans la gourde. C'est le hip-hop qui la fait danser sur les pistes. Parfois elle kiffe un peu de rock, ouais si la mélodie est triste. Elle fume des clopes et un peu de shit, mais jamais de drogue dure. Héroïne, cocaïne et crack égale ordure. Souvent en guerre contre les administrations, leurs BEP mécaniques ne permettront pas d'être patron alors. Elle se démène et vend de la merde à des bourges, mais la merde ça ramène à la mer un peu de bouffe, ouais. Parce que la famille c'est l'amour et que l'amour se fait rare. Elle se bat tant bien que mal pour les mettre à l'écart. Elle a des valeurs, des principes et des codes. Elle se couche à l'heure du coq car elle passe toutes ses nuits au fun. Elle paraît feignante mais dans le fond elle perd pas de temps. Certains la craignent car les médias s'acharnent à faire d'elle une cancre. Et si ma France à moi se valorise, c'est bien sûr pour mieux régner. Elle s'intériorise et s'interdit de saigner. Non,
c'est pas ma France à moi cette France profonde. Celle qui me fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge. Avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi cette France profonde. Celle qui me fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge. Avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre.
Ma France à moi, elle parle en SMS, travaille par MSN, se réconcilie en mail et se rencontre en MMS. Elle se déplace en skate, en scoot ou en bolide. Basile Boli est un mythe et Zinedine sont synonymes. Elle, il faut pas croire qu'on la déteste, mais elle nous ment car nos parents travaillent depuis 20 ans pour le même montant. Elle nous a donné des ailes, mais le ciel est VIP, peu importe ce qu'ils disent. Elle sait gérer une entreprise. Elle vit à l'heure américaine, KFC, MTV, Base, Footlocker, McDo et 50 Cent. Elle, c'est des petits mecs qui jouent au basket à pas d'heure, qui rêvent d'être Tony Parker sur le parquet des Spurs. Elle, c'est des petites femmes qui se débrouillent entre l'amour, les cours et les embrouilles, qui écoutent du rail, R&B et du zouk. Ma France à moi, elle se mélange. Ouais, c'est un arc-en-ciel, elle te dérange, je le sais, car elle ne te veut pas pour modèle. Non,
c'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui me fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui me fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre.
Ma France à moi, elle a des halls et des chambres où elle s'enferme. Elle est drôle et Jamel Debbouze pourrait être son frère. Elle repeint les murs et les trains parce qu'ils sont ternes. Elle se plaît à foutre la merde car on la pousse à ne rien faire. Elle a besoin de sport et de danse pour évacuer. Elle va au bout de ses folies au risque de se tuer. Mais ma France à moi, elle vit, au moins elle ouvre, au moins elle rit. Elle refuse de se soumettre à cette France qui voudrait qu'on bouge. Ma France à moi, c'est pas la leur. Celle qui va d'extrême, celle qui bannit les jeunes anti-rap sur la FM. Celle qui se croit au Texas, celle qui a peur de nos bandes. Celle qui vénère Sarko, intolérante et gênante. Celle qui regarde l'UNESCO et regrette le temps des choristes qui laisse crever les pauvres et met ses propres parents à l'hospice. Non, ma France à moi, c'est pas la leur qui fête le Beaujolais, qui prétend s'être fait baisser par l'arrivée des immigrés. Celle qui veut le racisme, mais qui fait semblant d'être ouverte. Cette France hypocrite qui est peut-être sous ma fenêtre. Celle qui pense que la police a toujours bien fait son travail. Celle qui se gratte les couilles à table en regardant Laurent Gérard. C'est pas ma France à moi, cette France profonde. Alors peut-être qu'on dérange, mais nos valeurs vaincront. Et si on est des citoyens, alors aux armes la jeunesse. Ma France à moi leur tiendra tête jusqu'à ce qu'ils nous respectent.